concept c'est dimanche après-midi. Le brunch, la gueule de bois, l'apéritif. Zéro pot dans la chambre, l'accès wifi, le portable, cherche un plan avec une fat et Didi. Pour un petit instant assez jouissif, fille détente, grande, étrange, assez mimi. Bête de jambes rasées, semble grave que les boules, je comprends.
Il est 13h.
RFI Musique.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actualité dans le monde en 2h30 sur tous les continents. Aujourd'hui, lundi 7 septembre, nous allons parler de l'Allemagne. Des tractations politiques qui commencent dans la région de Sachsen-Anhalt au lendemain d'une victoire inédite de l'extrême droite. L'AFD est en mesure de gouverner, il ne lui manque que 3 voix. Et l'ampleur de la victoire est suffisante pour faire la joie des sympathisants et la détresse des autres.
Nous sommes tristes que des gens comme eux entrent au Parlement. C'est vraiment grave, ça me bouleverse. C'est terrible, je pourrais en pleurer.
La victoire était pourtant attendue, mais les résultats laissent toute une partie de l'Allemagne et de l'Europe sonnée et démunie. On y reviendra dans le journal avec notre correspondant dans un instant, dans la Fabrique du Monde dans une dizaine de minutes. Et on essaiera aussi de comprendre ce que l'essor des extrêmes droites en Europe a comme conséquence pour les partis de droite dits traditionnels, avec notre invité dans un peu plus d'une heure.
RFI Midi.
La glorification d'un criminel de guerre n'a pas sa place dans un pays candidat à l'Union européenne. Déclaration de Bruxelles il y a quelques minutes, mais pour des milliers de personnes réunies en ce moment à Belgrade, Ratko Mladic n'est pas un criminel de guerre, c'est un héros et ils lui rendent un dernier hommage. Funérailles très controversées en Serbie. Ratko Mladic avait été condamné par la justice internationale pour crimes contre l'humanité et génocide dans les années 90, notamment pour son rôle dans le massacre de 8000 hommes musulmans bosniaques à Srebrenica. Analyse dans un quart d'heure. Au sommaire également un reportage en mer Méditerranée à bord du navire humanitaire Ocean Viking qui aide les immigrés tentant de rejoindre l'Europe mais sous la pression très forte des gardes-côtes libyens.
Il y a des gens qui essayent de rejoindre l'Europe et puis les Libyens arrivent, ils les interceptent, après ils les ramènent en centre de détention où ils sont rançonnés again jusqu'à ce qu'ils réussissent à passer.
Reportage à écouter à midi 25 temps universel juste avant Afrique Midi. Et voilà pour le programme. Bienvenue. Et pour commencer le journal, bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
L'extrême droite allemande exulte. Friedrich Merz, lui, est dans la tourmente.
Oui, déjà peu enviable, sa situation politique a empiré depuis que les électeurs de Sachsen-Anhalt ont plébiscité l'AFD, la formation anti-immigration et pro-russe. Elle a donc l'emporté largement hier aux élections régionales. 44% des suffrages contre moins de 18% pour la CDU du chancelier. Pour la première fois depuis 1945, l'extrême droite est bien placée pour diriger une région allemande. Elle a fait savoir ce matin devant la presse qu'elle entendait entamer des discussions pour un gouvernement d'alliance en Sachsen-Anhalt. Pascal Thibault, vous êtes en direct de Magdebourg. L'AFD cherche des solutions, faute d'avoir la majorité en siège.
Oui, effectivement, parce que l'AFD, c'est ce qu'a répété le grand gagnant Ulrich Siegmund, la tête de liste ici en Sachsen-Anhalt. Eh bien, l'AFD veut une majorité stable et ne pas se contenter d'être le groupe parlementaire le plus important, même si Alice Weidel, ce matin, lors d'une conférence de presse à Berlin, a parlé pour évoquer les élections d'hier. Il y a un résultat de rêve. On veut donc une stabilité stable. Ulrich Siegmund a expliqué que déjà dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des discussions avaient eu lieu. Je vous propose d'écouter celui qui emmenait l'AFD dans la course électorale en Sachsen-Anhalt.
Nous allons mener des discussions et voir si nous pouvons obtenir le ralliement d'un groupe parlementaire ou de députés individuels pour relever avec nous le défi historique qui nous attend. Nous verrons qui soutient nos positions de base. Cela implique tout d'abord d'élire un ministre-président AFD et non des arrangements qui ne seraient pas fiables sur la durée. C'est décisif et je ne sais pas aujourd'hui si cette fiabilité sera au rendez-vous. Nous le verrons dans les semaines qui viennent.
Alors, pour être clair, deux options sont envisageables. Soit quelques députés chrétiens-démocrates font sécession et rejoignent l'AFD, soit l'extrême droite obtient le soutien du petit parti BSW, dont les cinq députés permettraient à l'AFD bien de disposer d'une majorité absolue en siège. Mais avant les élections, l'AFD n'avait pas toujours parlé dans les meilleurs termes de ce mouvement, qui certes vient de la gauche, mais qui a des positions migratoires et sociétales conservatrices. Et puis au-delà, pour l'AFD, le succès d'hier, c'est un tremplin pour rebondir lors des deux régionales dans deux semaines en Allemagne, et puis à moyen terme au niveau national, pour la coprésidente du parti Alice Weidel. Les chrétiens-démocrates ne gagneront plus jamais une élection nationale. Elle vise, l'AFD, 40% pour les élections de 2029 dans toute l'Allemagne. L'AFD au niveau national est aujourd'hui crédité de près de 30% des intentions de vote.
Pascal Thibault en direct de Magdebourg. Vous l'avez évoqué, Pascal, ils ne sont que 5 députés, mais ils détiennent peut-être les clés du pouvoir en Saxe-Anhalt. Le parti BSW pourrait jouer les faiseurs de roi. Entre d'une part, donc, l'AFD arrivait largement en tête aux élections, d'autre part, les autres partis représentés au Parlement de cette région de l'Est. Sofia Katsenkova, bonjour.
Bonjour.
Vous nous en dites plus, Sofia, sur cette formation BSW, prête à collaborer avec l'extrême droite, alors pourtant qu'elle-même se situe plutôt à l'extrême gauche sur l'échiquier politique.
Effectivement, le BSW est un parti difficile à classer. Il est né en 2024 d'une scission avec Die Linke, le parti de gauche radical allemand. Sur l'économie, le BSW reste très à gauche. Salaire, hausse du salaire minimum, plafonnement des loyers, plus de protection sociale. Mais sur l'immigration, le ton est radical et populiste. Renforcement des contrôles aux frontières et plus d'expulsion de migrants, proche des idées de l'extrême droite. Le BSW se rapproche aussi de l'AFD sur la politique étrangère. Le parti radical de gauche veut arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine, lever les sanctions contre Moscou et reprendre les importations de gaz russe. En Saxe-Anhalt, les 5 élus du BSW deviennent incontournables car l'extrême droite détient 39 sièges sur 83 au Parlement régional. Il lui manque donc 3 députés pour avoir la majorité absolue. Pour l'instant, si le BSW ne semble pas ouvert à une coalition officielle avec l'AFD, il n'exclut pas pour autant de collaborer avec le parti ponctuellement.
Sofia Katsenkova du service international. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont repartis hier soir de Kiev comme ils étaient venus, en train. La présidence ukrainienne l'assure, les nouvelles propositions faites pour stopper la guerre sont plus efficaces. Les deux hommes ont aussi été reçus par Vladimir Poutine. Le président Zelensky s'attend à voir la guerre se poursuivre encore cet hiver. Le Kremlin, lui, indique ne pas exclure une reprise des pourparlers. Après avoir été condamné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il a maintenant droit à des obsèques en grande pompe. Radko Mladic, l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, est mort fin août à l'âge de 84 ans. Ses obsèques se déroulent ce lundi à Belgrade, la capitale serbe, en présence d'une foule nombreuse. Et malgré la réprobation internationale, la glorification d'un criminel de guerre n'a pas sa place dans un pays candidat, déclare très sèchement le porte-parole de l'Union européenne.
Ursula von der Leyen poursuit sa visite au Groenland.
Oui, 7 mois après la crise provoquée par les menaces américaines, la présidente de la Commission européenne est actuellement à Nuuk, la capitale du territoire. Elle entend réaffirmer le soutien de l'Europe aux Groenlandais, mais aussi renforcer les liens économiques avec ce territoire danois stratégique. Les explications de notre correspondante dans la région, Ottilia Ferré.
Le Groenland peut compter sur l'Europe. C'est le message que la présidente de la Commission européenne vient délivrer en personne à Nuuk. Pendant cette visite de 2 jours, elle doit rencontrer les dirigeants groenlandais et danois et signer ce lundi une déclaration commune avec le territoire autonome. On le sait, Donald Trump n'a eu de cesse de marteler qu'il avait besoin du Groenland pour la sécurité des États-Unis. En janvier dernier, il avait même menacé d'employer la force pour s'emparer de l'île si besoin, ce qui avait fait trembler ses habitants. La pression est redescendue depuis, mais Bruxelles veut désormais passer à l'action avec, je cite, une déferlante d'investissements européens. C'était l'annonce faite lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. Il était alors question de 530 millions d'euros pour la période 2028-2034. Mais Ursula von der Leyen pourrait annoncer 200 millions d'euros supplémentaires pour développer les infrastructures, les énergies propres et surtout l'exploitation des matières premières. Car le Groenland possède d'importantes ressources minières et ça, eh bien, ça intéresse fortement l'Europe qui cherche à réduire sa dépendance à la Chine. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Le Népal observe ce lundi une journée de deuil national en hommage aux victimes de la crue meurtrière du 26 août. La catastrophe a fait au moins 1400 morts et plus de 5500 disparus à la frontière avec le Tibet. Alors que les recherches se poursuivent, les drapeaux ont été mis en berne dans tous les bâtiments publics. Évoquant un tsunami himalayen, le ministre népalais des Affaires étrangères a évalué le coût de la reconstruction à des milliards de dollars. La nouvelle flambée de violence qui a éclaté au Liban fait des victimes civiles. À Beyrouth, un média d'État fait état de 11 morts, dont 2 jeunes enfants dans un village du sud. Israël poursuit ses frappes en accusant le Hezbollah de violations répétées du cessez-le-feu. En Indonésie, les perturbations du trafic aérien impactent des dizaines de milliers de voyageurs. Les fumées dégagées par un volcan entré en éruption semaient une belle pagaille. Le principal aéroport de Jakarta et 3 autres ont étendu leur fermeture jusqu'à ce soir. Et plus largement, l'Organisation météorologique mondiale met en garde la multiplication des incendies et des vagues de chaleur menacent les efforts faits pour améliorer la qualité de l'air avec des conséquences croissantes sur la santé.
Retour maintenant sur la 10e édition de Z-Event en France.
Oui, ce marathon caritatif de streamers a battu ce week-end tous les records en matière de dons. François Ballarin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Près de 33 millions d'euros ont été récoltés au profit de différentes associations.
Oui, c'est-à-dire plus du double de l'édition 2025, un succès rendu possible grâce à 80 streamers présents au Quorum de Montpellier où se déroulait cette dernière édition. 200 autres participaient au marathon à distance, des streamers principalement issus de communautés YouTube ou Twitch. De quoi permettre aux associations bénéficiaires de toucher un public plus large. C'est le cas du Secours Populaire. Ouria Tareb est membre du Bureau National.
Ils arrivent à mobiliser je ne sais pas combien de milliers de personnes et rien qu'avec 1 euro, ça fait une espèce de chaîne de solidarité énorme.
1 700 000 donateurs pour un don moyen de 10 euros, c'est énorme. En effet, une partie des plus de 30 millions d'euros récoltés est donc reversée au Secours Populaire avec une priorité affichée, l'accès à l'emploi.
Notre objectif, c'est de mettre notre énergie sur l'accès à l'emploi pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, l'accompagnement des jeunes, notamment les étudiants qui se retrouvent en grande difficulté quand ils ne trouvent pas de stage.
Parmi les autres associations bénéficiaires, la Ligue contre le cancer, Action contre la faim, Amnesty International ou encore la Ligue de protection des oiseaux. Quant au record de dons récoltés par un streamer, l'un des plus suivis, Matsu, est parvenu à dépasser les 5 millions d'euros sur sa cagnotte grâce à une tombola qui proposait notamment des maillots de foot dédicacés de Zidane ou encore Messi.
François Ballarin du Service France. Dans l'actualité judiciaire, l'ouverture ce lundi à Paris du procès des deux fils de feu, l'ex-président du Yémen, Ali Abdelhassan.
Vous écoutez le mix des cultures
sur HDR
99.1.
Vous écoutez HDR 99.1.
HDR, le mix de toutes les cultures.
HDR.
Les alarmes qui sonnent, le café, des années en file indienne pour rêver de ce corps qui part en fumée vers le nord. Ça m'évitera de dire les mots, je les écrirai dans ton dos. Serre-moi de toi, serre-toi dans mes draps, serre-toi de moi. Don't.
raison de faire. Car on chez rien là.
The world is a motherfucker, damn right. So now when you seen it be on no sight, you see it's tight on you, green light on you. Got your whole hood paying for that dirt you do. Had 17 niggas fall deep in the place. 17's tucked up under their waist. Niggas see my face, niggas know my name. And that sick-witted hog shit that I claim. My dumb bang bang, I'm a D-boy bitch. But it's fully automatic for the static of shit. I'm from the hillside, got the plug with the meth. You bring me methamphetamines, Tommy's a test. The man respect, I either break mine off. We ain't gotta talk, surround your body in chalk and do the shit walk. Now what that shit you feet? Got your body back floating up, shit creep. The world is a motherfucker.
The world is a motherfucker. See how shit be on under. The world is a motherfucker. Motherfucker. The world is a motherfucker. See how shit be on under. Time to make some brother wonder. Motherfucker.
Bitch, please stop blowing me up. Kinda good, but I ain't wanting to fuck. You ain't got no loot, so what the fuck is the use? And me, I'm on pursuit of a prostitute. I don't big pimp, but the game like this though. The bitch shows you, so you send that hoe. Living for a wardrobe and don't get nervous. We calling this dealer just escort service. Don't stop for the blacks, just Japs or Filipinos. From L.A. to Frisco and back to Reno. You see no foul, it's all from the womb. Gonna be the first pimp to send a bitch to the moon. When I'm done with that, I teach gangs so raw that all of them become my wives and laws. One big family in the gang of rockers. Man, the world is a motherfucker. Sun in the winter, something going on. What the fuck wrong? They talk about this when the world beginning, and the sad part about it is just beginning. Am I winning? Man, I ain't know. I'm trying to find love, but now it ain't no more. Your own family member stabbed your ass in the back, and what I'm supposed to do? Stab him back? I'm wondering if me and Black got something to do with it. I think about it when I'm dank full of the fluid. Sometimes I think we on hell on earth. Hell gon' be much, much worse. And I burst first, cause I ain't trying to see the man, unless he be ready for me. And when the saints do come marching in, your boy be legit gon' be in the band. The world is a motherfucker.
The world is a motherfucker. Cold shit be on us. Sometimes it makes a brother wonder.
It's a cold game. It's a cold game. Yeah. You gotta watch
them.
You gotta watch them.
Sometimes it makes a brother wonder.
Be some shy individuals. Yeah. Just a little something on the motherfucker mind right about now. You know, just how the world be a trip, you know what I'm saying? Be a motherfucker, boy. Be a
planète. Simplifier, accélérer, ne plus bloquer. Voilà le credo affiché par le gouvernement avec la parution au journal officiel du 22 avril 2026 du décret 2026-32. Son objectif officiel est d'alléger les procédures contentieuses en matière environnementale pour les projets dits stratégiques et de réduire les délais de justice afin de ne pas freiner la transition écologique et la souveraineté économique. Bonne idée pour certains, mais pour d'autres, pas tout à fait. Pour en parler, cette semaine, je vous propose de rencontrer la présidente de FNE Occitanie, France Nature Environnement, et il s'agit de Cécile Argentin. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle ce qu'est FNE, France Nature Environnement ?
Alors, France Nature Environnement est une association d'intérêt général au niveau national avec des déclinaisons dans les régions. Et donc, nous sommes FNE Occitanie Midi-Pyrénées à l'échelle de 8 départements, donc l'ouest de l'Occitanie. Et c'est le plus grand réseau d'associations au niveau national et qui est impliqué dans tous les départements et les commissions départementales.
Le FNE représente en général les associations de protection de la nature et de l'environnement dans tous les espaces de concertation avant des projets pour gérer l'agriculture au niveau de la préfecture, pour gérer la chasse, pour gérer tout un nombre de dossiers. Vous êtes très fort sur le terrain et c'est en général vous ou des associations que vous accompagnez qui mettent en justice des projets qui seraient écocides. Alors pourquoi la Fédération France Nature Environnement, au niveau national, ça dépasse finalement le régional, est impactée au premier chef par ce décret qui est censé permettre de faire avancer plus vite les projets dans la transition écologique ?
Alors nous sommes un mouvement qui marche avec la concertation, qui répond à toutes les enquêtes publiques, aux consultations publiques, qui sommes présents dans les commissions. Et donc il nous semble normal, nous, que la population soit à la fois informée et qu'on puisse aussi contribuer en tant qu'APNE, Association de Protection Naturelle de l'Environnement, à des améliorations des projets pour qu'ils soient moins destructeurs, moins écocides. Et ce décret-là prive les associations, dont FNE, qui a un service juridique de juristes important, d'un certain nombre de possibilités de recours, mais pas seulement de recours, également tout simplement de pouvoir porter un jugement sur un arrêté préfectoral qui va ouvrir sur un projet.
Donc c'est c'est-à-dire que vous n'avez plus accès au dossier ?
Alors, on a accès aux dossiers sur les enquêtes publiques ou les consultations publiques. Simplement, de ces consultations publiques sortent des arrêtés préfectoraux pour lesquels, aujourd'hui, il ne sera pas possible pour un certain nombre de projets de faire ne serait-ce que des recours gracieux, c'est-à-dire qu'on demande des modifications d'un arrêté d'exploitation parce qu'il ne nous semble pas suffisamment conservateur par rapport au milieu ou par rapport aux impacts éventuels. Donc ces recours-là sont, ce recours gracieux est devenu impossible. Et par ailleurs, nous sommes privés, mais tous les citoyens sont à la même enseigne, des possibilités de recours en première instance dans tous les tribunaux administratifs. Donc pour résumer, tous les projets qui concernent les énergies renouvelables.
En fait, en gros, il s'agit d'un saut dans une espèce de flou juridique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir vraiment comment agir, comment défendre les citoyens et la nature.
En fait, le seul objectif de ce décret, en fait, c'est d'appauvrir les associations en les obligeant à recourir non pas à leurs services juridiques en interne, mais à des avocats assez coûteux qui sont habilités à intervenir dans les cours administratives. Donc, en fait, c'est un moyen qui a déjà été mis en œuvre pour l'éolien il y a une dizaine d'années, de diminuer le plus possible les recours au tribunal administratif et donc les moyens de contestation, d'amélioration des dossiers. Donc, c'est le seul et unique objectif. Il y a un grand risque à ça, c'est qu'on sait très bien qu'en diminuant les concertations, en diminuant les possibilités d'aménager, d'apporter des avenants, on risque pour certains dossiers d'arriver à une confrontation qui soit beaucoup plus musclée de la part des populations locales. Je donne un exemple, l'EDREAL le confirme.
L'EDREAL est direction régionale à l'environnement, je ne sais plus.
De l'environnement et du logement. Que lorsqu'on fait une simple consultation publique, et beaucoup de cas maintenant passent en consultation publique, c'est-à-dire dématérialisée sur Internet, et non des enquêtes publiques qui supposent des enquêtes avec un commissaire enquêteur, eh bien les recours ensuite sont plus nombreux. Donc c'est un très mauvais calcul et c'est tout simplement un déni de démocratie environnementale qui pourtant aujourd'hui est tellement mise à mal.
Alors, ce décret, j'ai lu aussi qu'il instaurait un délai de rigueur. Qu'est-ce que c'est, ce délai de rigueur ?
Alors, on va avoir aussi beaucoup moins de temps pour recourir au tribunal. C'est-à-dire qu'avant, on avait une période très, très étendue. Donc, c'est ça vraiment qui est très visé. C'est-à-dire qu'avant le recours gracieux, faute de réponse au bout d'un mois ou deux, on pouvait faire un recours dans les deux mois qui suivaient. Or, là, en fait, tout est raccourci. Dès la publication sur le site internet de la préfecture, nous n'avons plus qu'un mois, je crois, pour déposer les éléments, un recours éventuel à la cour administrative, ce qui induit en fait de devoir, dès l'enquête publique, travailler avec cet esprit-là, puisque nous n'aurons jamais eu en amont une proposition d'arrêté préfectoral d'exploitation sur lequel nous pourrions proposer des améliorations, par exemple, ou faire des mises en garde. Donc on coupe complètement aujourd'hui les moyens de concertation, sachant que les enquêtes publiques sont en général des tartufferies, puisque les commissaires enquêteurs ne répondent pas aux questions, puisque même quand vous avez une opposition à 95% sur un projet, ça ne change strictement rien, et que les commissaires enquêteurs, globalement, ne donnent pas d'avis défavorable.
J'ai vu que ça ne s'appliquait pourtant qu'à 5 catégories de projets, les énergies décarbonées, donc l'éolien, le solaire, certainement l'hydroélectricité aussi, méthanisation, les transports, la souveraineté alimentaire, économique et enfin industrielle. Tous, on pourrait dire, alors peut-être les transports, ça dépend lesquels, ont quand même cet objectif de faire rentrer le pays dans une forme de transition et d'adaptation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors aujourd'hui, nous sommes encore à l'échelle nationale dans le tout aménagement routier, hein, qui est quand même pas du tout le bon exemple en termes de transition écologique, de décarbonation. Donc on a encore une forme de folie à construire des deux fois deux voies partout. Il y a des projets de contournement autour de Toulouse pour gagner une minute, des projets de contournement dans l'Aveyron, la N21 dans le 65, je ne vous parle même pas de la 69. C'est à chaque fois des projets surdimensionnés qui consomment, qui ont une emprise au sol monstrueuse, qui coupent toutes les corridors écologiques, qui utilisent énormément de matière et de bitume. Donc en fait, ces projets-là sont souvent soi-disant d'intérêt général et ou d'intérêt public. Et cette dénomination suffit à rentrer dans le cadre du décret. Et ce sera très difficile de les contester, même si vous avez la disparition de 15 hectares, 20 hectares, 30 hectares de